Ah, est-ce qu'on est bien là?
Ouais.
Bien.
On n'allumerait pas la radio?
Ouais.
Bon, on s'écoute Bartas alors, hein?
Ouais.
On s'écoute Bartas?
Décollage pour les matinales de Bartas.
Les matinales de Bartas.
De 8h à 9h.
Sur le 107FM.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, c'est une nouvelle table de mixage, je ne sais pas du tout comment ça marche, mais j'espère que vous m'entendez bien et que ça devrait bien se passer. Normalement, voilà, il faut que je baisse un tout petit peu le son et ça va le faire. Allez, bonjour, nous sommes le lundi 15 juin, il est 8h et au programme de cette matinale, je suis avec Sophie, bonjour.
Bonjour.
Et alors, nous ferons une petite pause musicale histoire d'attendre Isabelle Minetto, bah voilà, qui une fois n'est pas coutume, elle est déjà venue en matinale, elle s'est trompée légèrement d'heure. Alors, Sophie, vous organisez avec Ballet Brosse le 12 juillet prochain au domaine des Boissés une rencontre sensitive avec le mouvement, le paysage et l'autre. Qu'est-ce que c'est donc que tout ça? Eh ben, on en parle dans un instant avec le téléphone qui sonne. C'est génial. C'est lundi matin. On a la patate. C'est cool. Donc voilà, le temps de tout remettre en place, ça va le faire. Voilà, la grille d'été arrive la semaine prochaine. La matinale passe de 8h à 9h, ce qui nous aurait arrangé aujourd'hui avec Isabelle. Voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Ça arrive. Voilà, et mercredi nous recevrons Flore Théron, qui est nouvellement élue maire de Florac. On va parler du projet pour notre jolie ville de Florac. Et le vendredi, nous prendrons le direct après le flash de RFI à midi, vers midi 10. Voilà, mais on parle de tout ça lundi prochain avec mes chers amis du CA, avec qui on travaille d'arrache-pied pour cette grille. Il y aura quand même de la musique. Comme je vous l'ai dit, voilà, on fera une petite pause musicale histoire qu'Isabelle arrive, mais on va pas changer une équipe qui gagne. On commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Il fait un soleil de plomb. Le vacarme est assourdissant et l'odeur pestilentielle. Dans les venelles du bidonville de Dol Fadama, la boue vaseuse couleur pétrole colle aux semelles. Au bout de la marée métallique de toits de tôle, des colonnes de fumée noire s'échappent de l'horizon. Cet endroit est loin d'être le paradis, mais ce n'est pas non plus l'enfer. On le surnomme pourtant Sodome et Gomorre. Dans la banlieue d'Accra, c'est au Ghana, une décharge à ciel ouvert est devenue le lieu de toutes les toxicités. Des milliers de tonnes de déchets pour un désastre écologique. Ici, c'est 100 000 personnes qui s'entassent dans des habitats de fortune, avec des accès à l'eau et à l'électricité limités dans un air irrespirable. Le site est considéré comme l'un des 10 endroits les plus toxiques au monde. Début 2019, les chercheurs d'International Pollutant Elimination Network et du Basel Action Network ont publié les résultats d'une étude portant sur des œufs pondus par des poulets dans la banlieue d'Accra. Elle a révélé qu'un adulte n'en mangeant qu'un seul dépasse de 220 fois les limites fixées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour les taux de dioxine chlorée. De fait, cet endroit qui s'appelle Agbo Glochi est présenté comme le symbole d'une crise en perpétuelle expansion, celle de l'exportation des déchets électriques et électroniques des pays développés vers les pays pauvres. Et ouais, ça vient de chez nous. Agbo Glochi est même communément appelé la poubelle de l'Occident. Selon les Nations Unies, environ 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont jetées chaque année dans le monde. Un chiffre qui devrait doubler, tenez-vous bien, d'ici 2050. Alors que dans le même temps, on estime en moyenne à 20% la part des déchets recyclés de manière appropriée. La poubelle de l'Occident. Et ouais, ça vient de chez nous. Mais on s'en fout, non? Voilà, on se retrouve dans, allez, on va dire une vingtaine de minutes en direct. Je remets un peu de musique histoire d'attendre Isabelle. À tout à l'heure, ciao. We'll be right back. Hop là, de retour en studio, ça y est, il y avait plein de bouchons à Florac. Isabelle, bonjour.
Bonjour, désolé pour le retard.
Mais j'étais vraiment très très surpris parce que t'es quand même venu pas mal de fois et à chaque fois t'étais à l'heure, mais bon voilà, hein, ça arrive. Hein.
Ouais, j'ai changé d'espace-temps.
Et on est encore avec Sophie. Alors, avec Ballet Brosse, vous organisez une rencontre sensitive avec le mouvement, le paysage et l'autre. Isabelle, on ne te présente plus, hein, t'es prof entre autres de Feldenkrais, on t'a déjà reçu sur cette antenne. Et Sophie, si j'ai bien compris, tu es stagiaire à Ballet Brosse, alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, dans le cadre de ma formation CEDRE à Supagro. Donc CEDRE, c'est coordinateur en éducation à l'environnement. À l'environnement ou pour l'environnement ou par l'environnement, c'est comme on veut. Et voilà, moi mon stage il consiste aussi à essayer de rendre peut-être les liens invisibles visibles. Voilà, pour faire le pont entre l'art et l'environnement justement.
Et donc la danse, pour ce qui concerne l'événement que vous organisez le 12 juillet.
Voilà.
Alors. Le 12 juillet, donc, il s'agit en fait de se faire rencontrer des danseurs, des danseuses et des marcheurs. Alors, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais vous avez choisi un lieu magnifique, le domaine des Boissés, sur le Côte Sauvetère, au-dessus de Saint-Enimy. J'avais reçu David il y a 15 jours pour parler justement de l'ouverture de la saison. D'où est née cette idée de faire votre premier événement là-bas? Parce que si j'ai bien compris, il y en aura 4.
Oui. D'abord parce qu'on aime bien ce lieu. Voilà, déjà c'est la première chose. Et qu'à Ballet Brosse, on aime bien travailler en extérieur. En plus, là, vu les événements récents,
je sais pas,
on a plus du tout accès aux salles intérieures. Donc ça tombait très très bien ce projet qui était né bien en amont de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et puis, moi j'ai proposé le projet à l'équipe de Boisset, David, Julie, qui ont trouvé ça plutôt enthousiasmant. Donc voilà, donc ça s'est construit comme ça petit à petit et Sophie est venue renforcer l'équipe, ce qui est super. Voilà.
Alors concrètement, comment vous avez imaginé ce projet?
Alors concrètement, déjà avec Sophie, on a passé beaucoup de temps à randonner autour de Boisset parce qu'on avait l'idée de faire une boucle au départ, mais on ne trouvait pas des lieux. Enfin, on avait trouvé des lieux qui nous intéressaient pour proposer des choses. Et on a quand même passé pas mal de temps à marcher, à choisir, à observer, à voilà. Ensuite, on a défini un parcours de randonnée, donc ça fait 4 km. Et c'est vrai que 4 km sur le Causse, on se dirait qu'on pourrait le faire en une heure, sauf que là, depuis qu'on le fait en 3h, 3h30. Parce que l'idée, c'est que sur le parcours, il y ait des surprises, des événements, des propositions. Voilà.
Le lien entre justement une formation à Supagro et de la danse comme ça, c'est quoi? C'est de l'éducation à l'environnement en mêlant l'art? Comment ça se passe pour toi?
Et justement, c'est l'innovation, mais pas que, parce que voilà, y a de plus en plus maintenant d'associations ou de personnes qui ont envie de créer peut-être des ponts entre plusieurs disciplines, entre guillemets. Et voilà, c'est voir un peu dans quel sens et s'interroger sur le processus de création de la danse et de notre relation à l'environnement, à la nature, et de voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière entre nos représentations qu'on a aussi de la créativité, de la nature, et de faire un peu de trouver un peu le sens de tout ça, dans quel sens ça va pour chacun, et voilà.
Alors toi-même, tu danses?
Oui.
Et on en parlait en off, en attendant notre chère amie Isabelle, que c'est compliqué pour toi d'envisager de danser sans musique, mais là, il n'y aura pas de musique.
Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, je danse, mais pas de la danse contemporaine. Donc, c'est un autre monde pour moi, la danse contemporaine, mais justement, par rapport à la nature, l'environnement, comme on l'appelle comme on veut, c'est intéressant parce que du coup on travaille avec les éléments naturels, avec le vent, avec l'éveil des sens, et la musique n'est plus peut-être le moteur principal, mais ça c'est peut-être Isabelle qui peut plus en parler.
C'est ça Isabelle, en fait, ouais. Comment se passe le processus de création?
Ben, en fait, moi, au départ, j'ai une formation d'animateur pleine nature, voilà, nature et découverte, etc. Et en fait, c'est vrai que dans ce cadre-là, entre autres avec les enfants au départ, mais avec les adultes aussi, on utilise beaucoup d'outils pour éveiller les sens. Entre autres, la vue, qui est, quand on regarde un spectacle de danse, quelque chose d'important. Mais bon, les autres sens peuvent l'être tout autant, hein. Et du coup, là, dans ce travail-là, le premier processus, c'est de permettre au randonneur d'éveiller ses sens et peut-être de voir le paysage différemment et de l'envisager sous une forme plus imaginaire, comme quand on regarde un spectacle, en fait. Souvent, quand on regarde un spectacle de danse, et à plus forte raison un spectacle de danse contemporaine, parce que dans la danse classique, par exemple, c'est plus codifié. On sait que ça va raconter une histoire, qu'il va y avoir un prince charmant, voilà, tout, une belle princesse, et qu'ils eurent beaucoup d'enfants. C'est assez codifié, en général. Puis il y a un méchant qui arrive, voilà. Enfin, c'est un peu comme dans les contes. Là, en danse contemporaine, c'est vrai qu'on peut aborder vraiment tous les sujets de la vie. Et des fois, les gens, ils sortent du spectacle en disant... je suis pas sûre d'avoir compris ou j'ai pas bien compris. Mais l'objectif, c'est pas forcément de comprendre, c'est plus de ressentir. Est-ce que j'ai eu des émotions? Est-ce que ça m'a procuré du plaisir, de la colère, des questions? Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le sens de l'art, avec un petit ou un grand A, comme on veut. Et l'idée dans ce travail-là de construction, c'est de retrouver cette essence-là. Voilà.
Et par exemple, bon, j'arrive, moi je suis randonneur le 12 juillet à 9h30 au domaine des Boissés. La création va être unique, c'est-à-dire avec un coup de vent qui va passer tout d'un coup, est-ce que ça peut donner lieu à un mouvement de la part du danseur ou de la danseuse? C'est ça l'idée?
De toute façon, la création sera unique parce que déjà on ne sait pas le temps qu'il fera. On ne sait pas les gens qui seront là. Enfin, on sait à peu près les danseurs, sauf en cas de varicelle, mais ou de bouchon dans Florac. Mais sinon, on ne sait pas qui seront les danseurs. On sait qu'ils seront des danseurs, mais pas les randonneurs. Et par exemple, l'autre jour, à un moment, il y a eu une pause assis et il y avait 40 vautours qui volaient au-dessus de notre tête. Évidemment que ça influence sur le contenu de la journée. Hein. On l'a fait hier, on est sorti du bois, il y a eu un vent pas possible qui nous poussait à nous mettre à l'abri. Évidemment que ça va modifier la mobilité, l'expression des danseurs. Voilà. Et ça va être aussi modifié en fonction des randonneurs, c'est-à-dire de leur vitesse de déplacement, de leur capacité à regarder ou pas. Voilà. Il y a des gens qui peuvent lever la tête en marchant et d'autres qui sont obligés de s'arrêter pour marcher, pour regarder par exemple.
En préparant cette interview, j'ai souri ce matin, j'avoue, parce qu'il y a une phrase qui m'a interpellé et qui m'a vraiment fait sourire. Laisser la place au cheminement individuel. Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que on va marcher tous ensemble, d'un point à un autre. En fait, on part du village de Sauveterre et on va à Boissey. Donc ça, c'est du collectif. Mais après, pendant ce cheminement, chacun va pas voir la même chose, pas ressentir la même chose, pas avoir le même rythme, ne serait-ce que dans la marche, hein, on le sait, on marche pas tous au même rythme. Et donc pour moi, le cheminement individuel, c'est ça. C'est que tu verras pas la même chose que moi.
Alors,
tu n'entendras pas la même chose que moi non plus.
J'avoue. Et la danse, pour moi, ça veut dire aussi contact. Donc, contact, c'est se toucher, c'est... Enfin, alors pas que, évidemment, mais... Mais là, en cette période un peu bizarre, comme tu disais tout à l'heure, de distanciation sociale, comment on fait?
Alors, justement, le contact, c'est un des éléments de la danse, mais pas que. Par exemple, là, ce qui est intéressant, c'est que sur le cos, on peut danser. Des fois, les danseurs sont à 800 mètres du groupe de randonneurs. Des fois, ils sont dans le groupe de randonneurs et des fois, ils sont à 800 mètres, voilà, à l'horizon, on va dire, vraiment à l'horizon. Hier, ils étaient dans le ciel, même découpés dans le ciel. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, on s'est dit aussi que ça dépendrait un peu de l'évolution des choses d'ici le mois de juillet. Il y a aussi un travail de contact qui est prévu, qui sera fait ou pas, en fonction de comment ça se passera. Et puis de toute façon, on a encore des cartes blanches, puisqu'on a dit qu'on le faisait sur les quatre saisons. Donc ça n'empêche pas qu'en hiver, on aura plus de contacts pour se réchauffer sur le même parcours. Voilà.
Et il y a aussi quelque chose que tu n'as pas dit, qui est justement explorer une nouvelle chose, c'est le contact visuel. De profiter de cette distanciation pour justement amplifier le travail à deux en se regardant, et ça donne pas mal de belles choses, je trouve.
Développer autre chose et une autre manière de voir la danse, en fait.
Voilà.
Et donc toi, concrètement, Sophie, t'as fait quoi pour ce spectacle?
Alors moi, j'ai préparé le parcours avec Isabelle. C'est pas vraiment un spectacle, oui. Enfin, si, je sais pas si on peut dire spectacle, c'est pas grave.
Donc moi, performance, parce que... Ouais.
C'est beau, performance. Ouais. Okay.
Moi, j'accompagne Isabelle, j'observe beaucoup. J'observe justement le processus de création, comment ils font entre eux. Je coordonne, j'organise, voilà. Je fais un peu des choses comme ça. Et puis, je me questionne aussi beaucoup, j'amène des questionnements et des interrogations, je pense, par rapport à ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire.
Ça, c'est très intéressant parce que Sophie, en fait, elle n'avait pas, quand elle nous a rencontrés, elle n'avait pas de connaissances, entre guillemets, d'approche vraiment de la danse contemporaine, du travail qu'on pouvait faire, du travail en atelier, l'aspect création. Toi, tu as fait plus de la danse classique.
Moi, je danse le tango, la danse classique, c'est quand j'étais petite. Voilà. Ouais.
T'es la princesse?
Non, c'est encore autre chose, mais si on parle de tango, je vais pas m'arrêter. Donc, danse classique, c'était une autre vie, j'aimais pas.
Et c'est intéressant parce qu'elle pose des questions de Candide. Et du coup, hier, c'est quoi la question que tu nous as posée? Pourquoi?
Ah, alors, il était question de courir, je révèle peut-être un peu ce qui va se passer, mais voilà, courir. Alors, je pose la question, mais... Si les randonneurs qui viennent voient des gens courir au loin, comment est-ce qu'ils distingueront un coureur d'un danseur? Qu'est-ce qui fait que quand on court, on peut danser en courant? voilà, sincèrement, je pense que...
Mais je pense que j'aurais pu poser la question aussi, hein, très honnêtement.
Et c'était intéressant parce que du coup, ça nous a questionné sur notre pratique, sur ce qu'on proposait et sur, effectivement, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui court pour faire un footing et un danseur qui court sur le chemin et qui essaye de transmettre quelque chose avec des espaces-temps, justement, peut-être calculés, différents. Voilà.
Quatre saisons, quatre événements, quatre lieux différents. Est-ce que tu as déjà les trois autres lieux?
Alors, les lieux différents, en tout cas, en octobre, on sera encore à Boissey. Je crois que c'est dans la plaquette. Hein. Peut-être sur un parcours différent, ça dépendra aussi du temps qu'il fera. Parce qu'en fait, il y a plein d'endroits qu'on a envie d'explorer et on est obligé de se restreindre parce que sinon, on ne va pas faire 4 km en 3 heures, il va nous falloir 2 jours. Donc voilà. Donc il y a même des lieux avec Sophie qu'on a découvert et qu'on n'a même pas montré aux danseurs pour pas qu'ils aient envie d'y aller. Voilà.
Ah oui, et pour leur laisser, le jour où vous commencez les résidences, etc., se laisser surprendre par le lieu, c'est ça?
Aussi, c'est possible, et puis aussi parce qu'on se dit qu'on peut en garder pour l'automne, l'hiver et le printemps prochain.
Voilà. Il y aura combien de danseurs le 12 juillet?
On a une quinzaine.
Ouais, on va dire 14-15. Ouais.
Et genre, si moi je veux participer, je suis danseur, je ne danse pas du tout, mais allez, admettons, est-ce que je peux m'inscrire et participer ou
Ouais, bah là, on a déjà bien avancé. On a fait 3 week-ends sur le Causse, enfin 3 dimanches, et puis un travail sur Florac. Voilà. Après, il y a une résidence de 3 jours à Boissé. On va être le vendredi, samedi et le dimanche pour recevoir. Donc là, il va y avoir vraiment 2 jours intensifs. On va tout caler avec tout le monde parce que là, sur les temps de travail qu'on a fait, tout le monde n'était pas là. Donc il y a des gens qui ne travaillent pas d'habitude avec nous, qui sont venus s'associer au groupe. Donc ça, c'est intéressant. Ça mixe un peu. On a un groupe de référence, on va dire, à Ballet-Brosse. Hein, et là, il y a des nouvelles personnes qui ont eu envie de tenter l'expérience. Mais voilà, après, tu peux toujours essayer. Si tu as à proposer, peut-être qu'on retiendra tes propositions avec plaisir, en tout cas. Voilà. Et on est toujours heureux d'accueillir des nouvelles personnes.
Et l'idée aussi, et ça c'est génial, c'est de laisser une trace et garder un souvenir, puisqu'il y aura la réalisation d'un moyen-métrage au terme des quatre événements, c'est ça ?
Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a Marie-Pascale qui filme toute la démarche, tout notre travail depuis le départ, et bien sûr les résultats, les randonnées avec les randonneurs, et qui doit faire un film. Voilà, on ne sait pas si ça sera un court, un moyen, un long, et on ne sait pas encore les moyens qu'on a, parce qu'on a déposé des demandes de financement, et avec le corona, tout ça, on n'a pas de résultat. Donc on devrait le savoir, on va dire, fin juillet.
Le nerf de la guerre. En fait, l'idée, ce sera donc plus un making-of que le spectacle en lui-même.
Ouais, parce que c'est pas vraiment un spectacle, donc elle ne pourra pas être partout. Par exemple, il y a des endroits où il se passe des choses en même temps, à différents lieux, tu es obligé de tourner la tête à droite, à gauche, et elle devra choisir comme les randonneurs. Voilà.
J'ai eu Damien Bricoteau la semaine dernière en matinale, et il me disait que c'était dingue la manière dont la danse avait fait son apparition pendant le confinement. En fait, il y a eu plein de spectacles de danse qui sont apparus sur le net. Alors, à un moment où on peut plus toucher, en fait, quel regard vous portez, votre avis personnel sur cette nouvelle, entre guillemets, consommation de la danse ?
Justement, hier, avec un danseur, on parlait du temps et de l'espace, et on se demandait où se situait la danse entre le temps et l'espace. On essayait de définir un peu c'était quoi pour nous le temps et c'était quoi pour nous l'espace.
Vaste.
Voilà, et on en a conclu qu'on se sentait bien quand on dansait et quand on était un peu au milieu de cet axe espace-temps. Voilà, la définition que je donnerais de la danse, où on est vraiment, on se sent présent, enfin en tout cas moi, et avec le danseur à qui je parlais, c'était comme si on était dans le moment présent, on était là, au milieu de quelque chose.
Et toi Isabelle, cette redécouverte de la danse ?
Bah, en même temps, sur le net, et voilà, il y a toujours beaucoup, beaucoup de danse, hein. Si on cherche un peu, voilà, il y a des sites qui sont dédiés à ça, il y a tout un travail d'archivage aussi, des pièces dansées qui a été faites avec des chorégraphes connus. Donc voilà, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Et franchement, j'ai plus dansé en extérieur, mais moins sur le net ces derniers mois.
J'imagine.
Voilà.
Et t'as cartonné avec tes cours de Feldenkrais sur ces nouveaux trucs là qu'on a découvert, Zoom et autres, Starleaf, je sais plus quoi.
Ouais, ça a été très intéressant. En fait, ça fait longtemps qu'on me demande de donner des cours, d'envoyer des audios, pardon, pour les gens qui peuvent pas venir, se déplacer, etc. Et moi, j'étais très réticente parce que faire des propositions à des gens sans savoir comment ils vont les recevoir et sans pouvoir les accompagner si jamais ils partent dans une direction ou une autre qui peut être un peu compliquée, ça me motivait pas. Puis moi, j'aime bien le contact direct, pour moi c'est important. Et puis là, vu les circonstances, c'est vrai que j'ai ouvert 3 cours par semaine sur le net et qu'il y a eu plus de 60 personnes qui sont venues, donc à des horaires différents, etc., parce qu'il y avait des gens qui travaillaient encore. Donc c'était intéressant parce que d'une part, j'ai pu toucher des gens qui étaient très isolés. Donc ça, c'était vraiment un rendez-vous corporel qui était important pour eux, hein. Parce qu'en Feldenkrais, on travaille sur le corps, le mouvement, c'est un travail aussi... on a beaucoup travaillé par rapport justement à cette situation d'enfermement, on a travaillé sur des situations assises, parce qu'en cours, en général, on est allongé, mais là, comme les gens étaient chez eux, on a travaillé assis, debout, voilà, sur des situations liées au fait d'être beaucoup sur un écran, de travailler le regard... les tensions dans le regard. Donc c'était intéressant parce que c'était des rendez-vous pour des personnes très isolées. Puis aussi, ça m'a permis de retrouver des gens qui sont loin, qui ont quitté la Lozère, qui sont par exemple en Bretagne, et qui venaient régulièrement aux cours et aux séances. Voilà. Et je me suis rendu compte aussi que les gens étaient aussi contents de venir pour pratiquer le Feldenkrais et pour avoir une activité physique de bien-être, mais aussi pour voir du monde. Ça, c'était vraiment étonnant. Donc, je pense qu'à la rentrée, je vais garder une séance par semaine, mais je vais quand même privilégier tout ce qui est contact direct, évidemment.
S'adapter, ça a été un mot qu'on a entendu beaucoup pendant ces 3 mois. S'adapter, et donc, est-ce que tu as pu redécouvrir une autre manière de faire du Feldenkrais ?
Bah, Pas vraiment, en fait, parce que c'était, hormis les leçons qui étaient moins couchées, plus assises, voilà, l'organisation des leçons, sinon les temps étaient les mêmes. Les gens me disaient, on a vraiment l'impression d'être dans la salle avec toi, mais aussi parce que c'est des gens que je connaissais. En fait, l'adaptation, ça a surtout été de s'adapter aux outils. Hein. Et puis, moi, j'ai quand même des gens jeunes hein, dans les cours, mais j'ai aussi des gens assez âgés. Et la deuxième semaine, quand j'ai commencé, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas là. Bon, il y a des personnes que j'ai pas vues du tout pendant 2 mois, hein, mais... Donc, j'ai passé des coups de fil, et entre autres, il y en a une sur Flora qui a 75 ans, peut-être. Pas qu'elle me fâche, mais je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Et elle me dit, oh là là, mais Isabelle, je viendrais bien, tu sais, mais moi, ça fait 2 ans que j'ai pas allumé mon ordinateur, alors je sais pas. Bon, je lui ai quand même expliqué un peu, j'ai essayé de la guider, et le mercredi d'après, je l'ai vu apparaître sur l'écran, donc ça, c'est un peu magique. Ça veut dire que vraiment, là, il y avait la volonté de participer et d'être là, quoi.
Sophie, tu vas retenir quoi de ce qui s'est passé pour toi Supagro et puis de ton stage finalement?
C'est une question difficile parce que là je suis encore en plein dedans. Moi je pense que là actuellement ce que je peux dire c'est que je découvre un monde qui est le monde de la danse contemporaine avec des gens, voilà moi c'est les rencontres en fait. C'est des rencontres avec vraiment un réseau super chouette de personnes très intéressantes, très enrichissantes. Pour l'instant c'est ce que... Voilà, c'est ce que je retiens. Après, je pense que tu pourras me proposer la question à l'automne.
Allez, rendez-vous. Voilà. Et puis ça fait du bien d'entendre un petit peu cet accent qui chante le matin à la radio. Et mes collègues doivent se foutre de moi en disant « Ah tiens, il doit se sentir moins seul ». Voilà, ça fait du bien d'entendre l'accent du plat pays. Rencontre sensitive avec le mouvement, le paysage et l'autre. La première a lieu au domaine des Boissés. C'est au-dessus de Saint-Enémy. Alors,
il faut s'inscrire parce qu'il n'y a que 15 places. Et en fait, on va partir du village de Sauveterre. On partira à 9h du matin. Voilà. Et...
Le mail dans le ciel @gmail.com ou le 09 71 38 06 95. Voilà, je mets toutes les informations sur notre site dans quelques instants. Merci beaucoup, Sophie. Et je regarde Isabelle pour dire ça. Merci, Sophie.
Et juste merci une petite chose, c'est qu'après la randonnée, en fait, après la randonnée, l'activité ne s'arrête pas. Il y a un repas. Donc chacun amènera de quoi partager ou pas. Voilà, on espère que d'ici là, on pourra partager un repas. Il y a aussi toutes les expositions qui sont sur Boissé qui seront ouvertes. Il y a possibilité de faire une sieste Feldenkrais. Enfin voilà. Donc si vous vous inscrivez à la randonnée, arrivez à 9h du matin et prévoyez la journée.
C'est ça, quand j'ai vu sieste sur le papier, je me suis dit, ça c'est tout à fait pour moi. Merci beaucoup Isabelle, pour le coup, là je te regarde Isabelle, à très bientôt. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir. Alors, c'est la fin de cette matinale un peu exceptionnelle, je l'avoue. On se retrouve mercredi avec Flore Théron, qui est nouvellement maire de Florac. Et le collectif citoyen, on va évidemment parler du projet de la nouvelle mairie pour Florac. On va croiser les doigts. Je sais qu'il y a beaucoup d'espoir qui est bercé en ce moment dans les rues de Florac et ça fait du bien. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une excellente journée. Profitez-en bien, il fait beau. Après les crues qui ont eu lieu cette fin de semaine, d'ailleurs j'adresse tout mon courage à ceux qui ont été touchés et il y en a eu vraiment qui ont été durement touchés. Voilà, je vous embrasse tous, passez une excellente journée. À mercredi. Ciao.